J'espère que vous passez un très très bon moment à l'écoute des programmes de Radio Présence. C'est l'événement de l'année dans notre région Occitanie. Le Canal du Midi fête ses 30 ans de classement à l'UNESCO. Les équipes de RCF Occitanie ont navigué sur le Canal du Midi, 4 étapes dans notre région. Ils se sont notamment arrêtés à Toulouse pour célébrer un patrimoine exceptionnel. Ils étaient dans notre ville il y a de cela quelques jours. L'équipe de RCF Occitanie vous propose de réécouter cette émission sur les fréquences de Radio Présence.
Il y a des ouvrages que le temps transforme en monuments et puis il y a ceux qui continuent de vivre. C'est le cas du Canal du Midi. Bienvenue dans cette émission qui ouvre une série de 4 rendez-vous consacrés à cet ouvrage exceptionnel. 4 voyages au plus près du canal à la rencontre de celles et ceux qui le font vivre, qui l'entretiennent, qui le racontent et qui imaginent son avenir. Une série RCF proposée à l'occasion des 30 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance internationale qui célèbre une œuvre unique, mais qui nous rappelle aussi l'importance de préserver un patrimoine vivant. Car le Canal du Midi, c'est avant tout une aventure humaine, celle de Pierre-Paul Riquet qui au XVIIe siècle imagine de relier l'Atlantique à la Méditerranée et de transformer durablement un territoire. Un projet hors norme devenu l'un des grands ouvrages d'ingénierie de son époque, mais qui continue aujourd'hui encore à poser de nouveaux défis. Comment le préserver, comment l'adapter et comment le transmettre? Nous commençons aujourd'hui notre aventure à Toulouse, au Cal de Radoub, un lieu méconnu mais essentiel où depuis près de 2 siècles on met les bateaux à sec, on les répare et on entretient les ouvrages du canal. Ici, le Canal du Midi révèle une autre histoire, celle des gestes, des métiers et des savoir-faire qui permettent encore aujourd'hui de faire vivre cette œuvre et de la faire traverser les temps. À Toulouse, son avenir se dessine aussi avec le projet Grand Parc Canal, tandis que depuis 30 ans, le festival Conviventia fait du canal un espace de culture, de rencontre et de partage. Pour ce premier épisode, nous allons donc remonter à la source, comprendre comment le canal est né, comment il continue d'être entretenu et pourquoi il occupe encore aujourd'hui une place si particulière dans le cœur des Toulousains. C'est parti pour cette première édition spéciale.
Le 18-19 en Occitanie, Marie Olivares.
À mes côtés pour co-animer cette émission, Nicolas Hermé. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous. Et très heureux d'accueillir également du public aujourd'hui pour cette émission en direct de Toulouse.
Effectivement, du public pour nous accompagner dans le cadre de cette émission et plusieurs intervenants qui vont se succéder à nos micros. J'ai envie de donner la parole pour commencer à vous, Liborio Barafranca. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'adjoint au chef d'unité maintenant spécialisé des équipements. Bien sûr, à Voies Navigables de France, vous allez nous décrypter un petit peu ces cales de Radoub qu'on connaît assez mal. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici, dans ces cales? Qu'est-ce que vous vivez au quotidien avec vos équipes?
Alors, ce qu'on vit au quotidien avec nos équipes, puisqu'on est là maintenant spécialisé des équipants, c'est-à-dire qu'on entretient et qu'on maintient toutes les écluses, motorisation, électrique, hydraulique. Et ici, nous avons donc l'unité qui est installée et qui, intervient dès que c'est nécessaire. Alors, on a ici plus particulièrement la chaudronnerie. La chaudronnerie qui répare les portes, les passerelles quand c'est nécessaire, qui fabrique aussi des équipements tels que des pupitres de commande, qui fabrique les poteaux de signalisation pour les feux de signalisation. Voilà.
Est-ce que les gestes qui étaient pratiqués il y a 200 ans sont restés les mêmes?
Oui, dans le sens où la chaudronnerie reste toujours du travail du métal, alors du gros acier jusqu'à l'aluminium, puisque aujourd'hui on peut aussi travailler l'aluminium, mais en même temps on s'est modernisé. Voilà, à l'époque tout le travail se faisait manuellement, on découpait, on soudait, aujourd'hui on a des machines. On a des machines pour découper la ferraille, on a des machines pour la plier, on a une machine plasma pour faire du découpage précis. Mais la gestuelle de soudure reste toujours la même. C'est toujours des gens qui sont là pour le faire.
Alors nous sommes ici sur un site industriel qui a été conçu dès l'origine du canal pour avoir justement cet objectif de réparation et d'entretien des bateaux et de tout le système de navigation fixe, hein, avec un lieu quand même qui est très beau.
En effet, on a cette chance.
Et qui est toujours utile et toujours bien pensé par rapport à l'activité industrielle que vous y avez aujourd'hui.
Oui, je pense qu'à l'époque, ils avaient déjà réfléchi au futur. Les cales permettent toujours d'accueillir des bateaux jusqu'à 38 mètres. Ils ont été construits de telle façon que les bateaux puissent rentrer facilement, puissent mettre dans les cales facilement. Tout était déjà prévu à l'époque. On ne fait que réutiliser ce qui était déjà fait. Donc ça a été bien réfléchi. Ensuite, la chaudronnerie est arrivée par la suite, puisque à l'époque, les portes n'étaient pas forcément en ferraille. C'est arrivé après coup. Donc voilà, oui, tout a été bien réfléchi.
Alors quand vous parlez de portes, hein, vous parlez des écluses, hein, ce ne sont pas des simples portes.
Je parle des portes des écluses qui, aujourd'hui, si vous prenez une porte, le mètre de porte, c'est une tonne. Donc on a des portes, des vantaux, qui font 10 mètres de haut, et donc ils sont à 10 tonnes.
Alors on parle des écluses. Dans mon introduction, j'ai également parlé de bateaux. Est-ce que je me suis trompé?
Non. Alors,
on en retrouve encore.
On en retrouve, ils les réparent ici. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle les cales du Radoub. Mais ça, Samuel vous en parlera mieux. On répare toujours les bateaux, mais c'est pas Voies Navigables de France qui le fait. Hein. Les cales sont mises à disposition d'entreprises ou de particuliers qui viennent ici pour réparer leurs bateaux.
On est aujourd'hui sur la seule cale couverte de tout le canal du Midi. Est-ce qu'il y a encore des savoir-faire qui perdurent dans cet espace, qui malheureusement se perdent dans d'autres, en France tout simplement?
Disons que à partir du moment où on a un lieu pour pouvoir faire, donc ça perdure
ça
forcément.
Perd pas.
Voilà, c'est ça.
Et est-ce que vous transmettez aux jeunes générations?
Alors, sur la réparation des bateaux, je n'ai pas trop m'avancé, je ne répare pas les bateaux.
Sur les écluses.
Je répare les écluses. Mais oui, la transmission se fait. Elle se fait parce qu'on a des gens qui ont appris le métier et on reçoit des jeunes en stage régulièrement qui viennent pour apprendre ce métier. Qui est, alors, le métier de la maintenance spécialisée, chez nous, on est plus sur de l'électromécanique. Hein, contrairement à ce qui est de la réparation de bateaux, qui peut être de la chaudronnerie, ce genre de choses. Mais la transmission se fait.
Quels sont les problèmes les plus fréquents que l'on rencontre dans vos ateliers? Pourquoi, en fait, on travaille sur les écluses? Qu'est-ce qui se passe sur ces écluses dont elles ont besoin d'un entretien? Pour qu'elles aient besoin d'un entretien?
Pour qu'elles aient besoin d'un entretien, déjà, il faut que c'est pour permettre aux bateaux et aussi à la gestion hydraulique de bien fonctionner. C'est-à-dire que le passage de l'eau est important aujourd'hui et il faut que nos équipements fonctionnent. Donc ce qu'on rencontre souvent, vous savez, c'est comme tout. Quand vous utilisez beaucoup, donc ça s'use. Et derrière, il faut qu'on intervienne. Quand vous utilisez peu, la problématique, c'est que quand vous les réutilisez, il faut tout remettre en marche.
Combien d'écluses on retrouve sur le canal du Midi?
144. Mais il faut aussi intégrer la montagne noire, qui est le système alimentaire, mais ce n'est pas le seul. Donc on intervient surtout sur le canal des Deux-Mers, parce qu'on est, ici on est sur les cales du Radoub, donc il y a une équipe qui est ici, et vous en avez aussi une à Béziers, une à Carcassonne, une à Agen, donc on est bien répartis au niveau de la maintenance spécialisée pour intervenir sur tout le secteur du canal, aussi bien sur le système qui est hydraulique, c'est-à-dire qu'on a des vérins, des autovérins, aussi bien sur les systèmes mécaniques, avec des moteurs pour l'ouverture des portes, etc.
Alors, un système qui est géré de manière moderne, mais tout en respectant finalement les caractéristiques historiques et puis du patrimoine qu'est le canal du Midi. On a vu tout à l'heure des bornes que vous avez conçues en lien avec les architectes des bâtiments de France pour pouvoir s'intégrer dans le paysage, tout en répondant aussi à des besoins modernes.
Évidemment. Évidemment, on essaye d'assembler les deux. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a besoin d'équipements qui permettent d'intervenir et de faire fonctionner les écluses correctement, tout en gardant le côté patrimonial. Donc c'est pour ça que régulièrement, dès qu'on veut mettre quelque chose en place de nouveau, on travaille avec les services des ABF pour voir si ce qu'on veut mettre en place, c'est conforme sur le canal du Midi. On n'a pas ce problème-là sur le canal latéral, par exemple.
Alors je pense qu'il faudrait quand même la décrire, cette cale, elle est juste derrière nous, on dirait une halle finalement. Aujourd'hui on est en cale sèche, hein. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur, oui. Ça veut dire qu'on apporte le bateau, la cale est pleine.
Oui.
On le maintient en équilibre, enfin il doit y avoir un système que vous allez nous expliquer, puis on vide la cale.
Et après on vide la cale. Alors ce qui se passe c'est que le bateau va arriver du canal, il y a une ouverture là-bas, il y a une passerelle qu'on ouvre, le bateau va venir. Entre-temps, la cale sera remplie. Et donc, vous avez 1000 mètres cubes. Donc, c'est pas mal d'eau qui sont mis. Dès que le bateau est rentré, alors on a des gens qui sont tout à fait capables de bien l'installer, de bien le mettre en place. Une fois que c'est fait, on referme les portes. On vidange. Donc, l'eau part dans les canalisations et puis atterrit à la Garonne. Voilà, le bateau est posé. Une fois qu'il est posé, l'entreprise intervient, fait les réparations, la peinture, etc. qu'ils ont à faire. Une fois que c'est fait, on nettoie quand même, pour ne pas envoyer n'importe quoi. Et ensuite, on remplit à nouveau, on fait sortir le bateau, et ainsi de suite.
Et entre-temps, il a vécu un sérieux lifting, hein. C'est-à-dire qu'on voit la coque, on repeint. Oui. J'imagine qu'il y a pas les mêmes types de coquillages sur les coques que ce qu'on peut trouver en mer.
Non, parce que les bateaux, ils ne sont pas en mer, donc forcément, vous n'avez pas
et
trouvé
la même
chose. Les
coquillages douces.
Il y en a, ça arrive. Ça arrive, ça dépend des secteurs où ils se trouvent, hein. C'est toujours pareil. Si vous allez, par exemple, du côté de Narbonne, sur le canal de la Robine ou le canal de Jonction, vous avez des possibilités d'avoir du coquillage puisqu'il y a de l'eau salée pas très loin. Quand vous allez sur l'écluse de Sainte-Lucie, si vous restez sur Toulouse...
Et c'est quoi une belle journée de travail pour vous et vos équipes? C'est un moment où il y a une panne qu'il faut gérer tout d'un coup? C'est une grosse opération de maintenance qui n'arrive pas tous les jours?
Non. Les belles journées, c'est quand on n'a pas besoin d'intervenir. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Ça, c'est les belles journées. Après, on a de belles journées quand on a des projets de rénovation, ce qu'on fait pendant le chômage. Actuellement, on automatise certaines écluses, des écluses doubles, donc c'est un peu plus complexe. Et là, ce sont non pas des belles journées, mais c'est de beaux mois, même si c'est l'hiver, même si c'est complexe pour les agents, il n'empêche qu'ils se régalent. Et ça, c'est des belles périodes.
Le chômage, hein, c'est un mot qu'on a appris tout à l'heure en venant dans votre atelier. Est-ce que vous pouvez expliquer cette période
Alors,
de l'année?
Le chômage, c'est une période où la navigation est stoppée. Voilà, ça nous permet à nous, pendant cette période-là, d'entreprendre des travaux plus importants.
Cela correspond à quelle période de l'année?
Alors, on en a deux, en fait. On a un chômage qui est pour le canal latéral, qui est de novembre à décembre, et un chômage sur le canal du Midi, qui est de janvier à février.
Ok. Voilà. Une dernière question, parce qu'il va falloir passer maintenant à la partie histoire. Combien de personnes travaillent dans ces cales?
Ici?
Oui.
Alors, pour voies navigables, après pour les entreprises privées, je ne peux pas répondre. Mais pour voies navigables de France, en permanence, ici, on doit être une vingtaine. En permanence, sachant que les équipes ne restent pas, hein, elles vont sur le terrain. Mais en permanence, oui.
Merci beaucoup en tout cas pour
nous
avoir présenté ces cales de Radoub. Je rappelle, Liborio Barafranca, que vous êtes adjoint au chef d'unité maintenant spécialisé des équipements à voie navigable de France. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la partie histoire, si cela vous convient. Est-ce que nous avons une petite virgule?
Le 18-19 en Occitanie, édition spéciale.
Parce que pour la réalisation de cette émission, il y a deux techniciens. L'un est avec nous à Toulouse et il gère pas mal de choses puisqu'on est en direct avec du public et en plein air. Donc on entend régulièrement passer le train depuis les cales de Radoub. Et puis il y a Louis Echeverria qui est à Montpellier et c'est lui qui envoie les sons. Mais forcément, il fait ça à l'aveugle. Donc on passe à la partie histoire. Et pour cette partie-là, je vais inviter nos deux intervenants, à savoir Samuel Vanier. Bonsoir. Vous êtes responsable unité patrimoine culture archives à Voix d'Invidiap de France.
C'est exact.
Et à vos côtés, il y a Gérard Crevant. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un spécialiste, on va le dire, de l'histoire du canal du Midi, passionné par son histoire.
De la biographie de Riquet.
Et auteur.
Pas de toute l'histoire.
Et auteur, je le précise, du livre Pierre-Paul Riquet, l'audace et la ténacité, consacré donc, on l'aura compris, au créateur du canal du Midi. Peut-être une première question pour vous, Samuel Vanier. Que représentent les cales de Radoub dans l'histoire du canal du Midi?
Alors, si on parle de celle de Toulouse, c'est un équipement qui arrive en 1830, mais qui complète des équipements qui existaient depuis la fin du XVIIe siècle sur l'ensemble du canal du Midi.
Et qui ont déjà été sur ce site-là?
Non, le site de Toulouse où nous nous trouvons, Pont des Demoiselles, remplace un site plus ancien qui se trouvait dans le périmètre du port Saint-Étienne, ouais, qui est aujourd'hui le port Saint-Sauveur, dans la zone du Grand Rond. C'est un chantier dont on a des traces en archives dans les années 1740 et qui va prendre de l'ampleur vers 1780.
D'accord. Avant Riquet, l'idée de relier l'Atlantique à la Méditerranée, est-ce qu'elle avait déjà été évoquée? Et pourquoi ce projet était si important? J'ai envie qu'on retrace un petit peu avec vous le contexte de la création du canal du Midi.
On est dans une région du Royaume de France qui est très étendue, le Languedoc. On a le Bas-Languedoc qui est la région maritime, enfin Montpellier, Narbonne, qui est une zone marquée par des zones d'élevage. De petites manufactures, et le Haut-Languedoc, la région toulousaine, l'Albigeois, c'est plutôt marqué par de l'agriculture et des grandes pièces de terre riches. Et donc l'idée, c'est de faire d'équilibrer par un réseau de communication plus performant que le routier l'économie du Languedoc. Et cette idée-là, elle trotte dans les esprits depuis belle lurette. Hein. On en trouve des traces au XVIe siècle, les traces d'un projet pour faire un canal entre la vallée de l'Aude et la vallée de la Garonne. Alors, si on prend les auteurs du 18e ou du 17e, il faut raccrocher ce projet à des noms prestigieux. Donc on invoque les Romains, on invoque Charlemagne, mais on a peu de traces ou pas de traces de ces projets-là. Et après le XVIe siècle, on a un certain nombre de projets qui sont amenés à fin du XVIe siècle, plusieurs au XVIIe siècle, mais sans qu'on trouve jamais le problème de l'alimentation en eau de ce canal.
Est-ce qu'il y a aussi une problématique à cette période-là, j'allais dire de politique internationale, avec notamment Gibraltar, qui posait souci, la France ne pouvait pas faire voyager ses denrées d'une région à une autre facilement. Est-ce que ça aussi, c'est une des raisons qui ont poussé le Royaume de France à créer ce canal du Midi?
La géopolitique joue beaucoup dans ce genre de projet. Il y a le passage par Gibraltar d'un côté, qui est sous le contrôle du roi d'Espagne, qui n'a pas toujours été en bon terme avec le roi de France. Et il y a aussi un certain nombre de problèmes de navigation. En Méditerranée, vous avez pas mal de tempêtes. Le golfe du Lion, c'est un golfe dangereux à pratiquer. Il y a de la piraterie. Donc tout ça fait que le transport de marchandises par voie maritime est complexe et risqué. Et donc éviter le détroit de Gibraltar par un canal de navigation qui permettrait de passer à travers les terres, c'est quelque chose qui s'impose dans les esprits dès le XVIe siècle.
Samuel Vanier, vous êtes responsable de l'unité patrimoine, culture et archives à VNF. Ce matin, j'étais en reportage au domaine de Bon Repos. Et ma question, c'est, est-ce qu'il y avait des trésors d'archives? Est-ce qu'on a découvert des documents? On m'a dit non, toutes les archives sont aux voies navigables de France. Ça veut dire que c'est vous qui gérez ce patrimoine et qui l'explorez, peut-être qu'il le confie aussi aux chercheurs?
La direction régionale sud-ouest de VNF a la grande chance d'avoir hérité d'un dépôt d'archives qui vient de l'histoire administrative de la gestion du canal du Midi. On a les héritiers de Pierre-Paul Riquet au milieu du XVIIIe siècle ont organisé l'archivage des pièces administratives dans un lieu unique centralisé à Toulouse. Et cette accumulation de papiers s'est prolongée jusqu'à nos jours, toujours centralisé à Toulouse. Alors le premier bâtiment de 1752 a été remplacé par un bâtiment en 1830. Dans lequel je reçois les lecteurs, mais aujourd'hui nous avons plus de 2 km d'archives et il y en a 600 mètres qui sont dans ce bâtiment ancien. Donc on a cette chance d'avoir une documentation très, très nourrie qui permet de reconstituer l'histoire, de comprendre cette histoire, de voir comment les ouvrages d'art ont pu évoluer, comment les activités ont évolué aussi. Et ça donne énormément de force, et ça a donné beaucoup de force d'ailleurs au dossier d'inscription du canal du Midi sur la liste du patrimoine mondial.
Il y a encore des trésors à découvrir, on sait tout sur le canal ou pas ?
On ne sait pas tout sur le canal, heureusement, il y a encore plein de choses à découvrir, mais il nous faut des chercheurs.
Gérard Cremon, je me tourne vers vous. On va repartir, si vous le voulez bien, Nicolas Hermé, sur la partie historique avant de partir sur les archives et les trésors qu'elles contiennent. Pierre-Paul Riquet arrive dans un contexte que nous a présenté Samuel Vanier. Il a une intuition particulière. Est-ce que vous pourriez nous la décrire, cette intuition ? Qu'est-ce qu'il va comprendre de plus que les autres ?
Bien. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Riquet s'est installé, dans le cadre de son métier, à Revel, au pied de la montagne Noire. Et son métier l'a amené à parcourir cette montagne, et il s'est petit à petit aperçu qu'il y avait un gros réseau hydrographique et qu'il y avait des potentialités énormes du point de vue hydraulique. Et comme tout languedocien, il s'intéressait à la création d'un canal, puisque depuis François Ier, ça ressortait tous les 30 ans. Hein. Donc il a commencé à penser comment utiliser cette potentialité pour alimenter un canal. Parce que le problème, c'était que le canal à construire était distribué sur deux bassins versants. Et que, à ce moment-là, il était nécessaire d'amener de l'eau à leur limite, le point de partage, l'endroit qui serait le plus haut du canal.
Vous précisez quand même qu'il n'était pas ingénieur de formation ?
Non, mais à cette époque-là, les gens s'occupaient un peu de tout, se formaient un peu de tout, et il faut quand même dire que Riquet avait dit un jour à Colbert qu'il avait une grande passion pour les affaires de travaux publics et la mécanique. Donc c'est déjà une orientation.
Une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Comment on pourrait définir l'esprit de Pierre-Paul Riquet ? Est-ce que c'était un entrepreneur, un visionnaire, un politique avec un certain talent d'ingénieur ? Comment vous le qualifieriez ?
Un entrepreneur, ça c'est à coup sûr. Son métier dans les gabelles, il l'a fait de la manière dont il l'a fait. Il a construit une fortune confortable parce que il était entrepreneur et qu'il a bien su gérer son affaire raisonnablement mais efficacement. Et après
Samuel Vanier.
Je rajouterai qu'il court après un idéal, puisqu'il dit que son grand-père a été noble, mais qu'il a perdu son titre de noblesse. Donc il court après l'idée de rétablir sa famille dans la noblesse. Et il a, dans la construction d'un canal qui a été ouvert en 1642, c'est le canal de Briare, entre la Loire et le Loing, les promoteurs du canal de Briare ont été anoblis. Donc il se dit aussi, en plus de ce que Gérard apporte comme information sur sa motivation, une motivation personnelle, il se dit que s'il réussit son pari, il ne pourra pas échapper, enfin, il pourra revendiquer plutôt fortement la réhabilitation en noblesse.
Je comprends l'ambition, mais je reviens quand même à cet élément de base qu'il n'est pas ingénieur de formation. Donc la technique peut être assez éloignée de sa propre formation. Comment on explique le fait qu'il ait pu tenir un chantier, alors qu'il ne verra pas jusqu'au bout, mais un chantier qui a été quand même assez court, 14 ans seulement, qui a commencé en 67 pour se terminer donc dans les années 90. Comment on explique qu'il a réussi à porter ce chantier aussi complexe ?
Je pense que c'est parce que c'est un très bon manager. voilà. qui a su s'entourer. Alors on parle toujours de Riquet, la construction du canal, on a l'impression qu'il est tout seul, mais il y a du monde autour. Il sait déceler les compétences, il sait s'adjoindre les bonnes personnes. Et avec ce groupe qu'il a autour de lui, sa garde rapprochée, ben il avance vite parce qu'il a aussi les moyens financiers derrière qui peuvent faire la différence.
Puis il avance vite, sauf que il avance dans un premier temps jusqu'à ce qu'on lui coupe les moyens. Parce qu'il faut dire que l'argent n'arrivait pas aussi rapidement qu'il l'aurait souhaité. Et qu'à cette époque-là, dans le premier temps, il se servait aussi de l'argent de la gabelle. Mais lorsque Colbert a découvert ça, bon, il n'était pas content du tout. Riquet lui a promis qu'il ne le ferait plus, mais il le faisait quand même. Et il est arrivé un moment où ça a cassé. C'est l'année 1673, donc 6 ans après le début des travaux. Colbert l'oblige à se démettre de la gabelle, de la gestion de la ferme des gabelles du Haut-Languedoc. Et là, Riquet n'a plus que l'argent qui lui vient, mais qui arrive toujours en retard, l'argent du roi et l'argent des États de Languedoc, et sa fortune personnelle. Mais sa fortune personnelle, elle va fondre très rapidement.
Et on peut peut-être parler de chiffres, parce que justement, quand même, c'est un meneur d'hommes aussi, plusieurs milliers de personnes qui ont travaillé sur le chantier, des compétences énormes aussi, quand même, pour arriver à relier des points différents, à faire un canal tel qu'il était envisagé au départ. Il y a peut-être d'autres noms aussi qui sont associés à cette œuvre auprès de Paul Riquet.
Bien. Le premier qu'on cite habituellement, c'est François André aussi, qui était son cartographe et dessinateur. Mais ce n'était pas, de mon point de vue, le principal. Moi, celui que je mets en numéro un, c'était Dominique Gilade, qui d'ailleurs terminera sa carrière après la mort de Riquet et sous la direction de son fils aîné, comme directeur général des travaux du canal. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et un autre qui est beaucoup moins connu, mais qui a dû avoir un rôle très grand aussi, c'est Jean Gasse de Contigny, qui était quelqu'un qui venait des gabelles aussi, et qui faisait partie de l'équipe dirigeante qui secondait immédiatement Riquet. Bon, on pourra en citer quelques autres, mais je crois que ces trois-là...
Ils sont incontournables.
Voilà.
On parle effectivement des figures. Il y a donc tous ces hommes et ces femmes de l'ombre qui ont fait de cette aventure celle que l'on connaît maintenant. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les archives qui retracent cette aventure humaine? Quels sont les types de témoignages finalement qui vous permettent de proposer aux historiens en fait cette lecture de ce chantier, de cette aventure?
La première source vers lequel je dirigerai un historien qui s'intéresserait à cette période, c'est la correspondance de Pierre-Paul Riquet avec Colbert en premier. Il y a à peu près 280 lettres conservées, surtout dans la première période, donc de 1662 à 1673, parce que comme disait Gérard, à partir de 1673, les relations se dégradent, donc on écrit moins, on passe par les... parle des personnes par personne interposée, mais autour de cette correspondance Riquet-Colbert, il y a plein de lettres dont une part sont en train d'être classées parce qu'on a eu une période de restauration sur les documents qui n'étaient pas communicables, et on est en train de faire grossir ce corpus de textes dans lequel il y a plein d'informations à trouver, où on voit l'imbrication entre les activités de la gabelle et les activités de la construction du canal. Ce sont deux mondes que pilote Riquet, et il y a des passerelles à peu près à tous les niveaux.
Et est-ce qu'on retrouve aussi des documents des habitants eux-mêmes de ces villages qui ont été traversés par le canal, de ceux qui ont ces petites mains qui ont œuvré? Est-ce qu'elles aussi, elles ont leur place dans les archives?
Alors oui, il y a un chercheur qui a fait une thèse il y a soutenu en 2011, hein, le regretté Michel Adjé, qui a passé beaucoup, beaucoup de temps à explorer les pièces comptables de la construction du canal qui ont été conservées. Et dans ces pièces comptables, on a des listes des personnes qui s'enrôlaient à la journée ou à la semaine sur les chantiers du canal. Et donc là, on a les noms de personnes qui étaient les paysans du coin, qui étaient les maîtres maçons d'une zone proche, les charpentiers. Et tout ce monde-là se retrouve sur les chantiers du canal. Alors, effectivement, les employés spécialisés, les charpentiers, maçons et autres, ils avaient des chantiers à suivre et ils restaient. Mais ceux qui venaient des fermes proches, dès qu'il y avait les travaux des champs qui reprenaient, ben, ils repartaient. Mais on a effectivement trace de ces gens qui ont travaillé au creusement, aux travaux essentiellement de terrassement de la construction du canal.
Alors, le canal du Midi est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi cette reconnaissance internationale était-elle importante ?
Alors, c'est une... Alors, elle est importante après coup, enfin, j'allais dire. Disons qu'il y a eu, au début des années 1990, une prise de conscience au niveau des instances de l'UNESCO que les biens qui étaient inscrits sur la liste du patrimoine mondial étaient souvent... une cathédrale, un château, un groupe, mais il n'y avait pas de biens qui étaient vraiment très développés sur un territoire. Et un expert ICOMOS, un professeur d'université qui s'appelle Michel Cotte, a entendu à un moment cette volonté d'ouvrir sur d'autres types de sites. Et il se trouve que Michel Cotte connaissait le canal du Midi, aimait beaucoup cette infrastructure et est venu chercher... a rencontré la secrétaire générale adjointe du service de la navigation de Toulouse à ce moment-là, qui était Mireille Brière. Et de ce contact, il y a une mayonnaise qui a pris très vite. Mireille Brière a travaillé à la création d'un premier pré-dossier qui a passé les premières étapes. Et d'étape en étape, on est arrivé à l'inscription. Alors, c'est donc une initiative complètement... j'allais dire personnel, enfin c'est deux personnes passionnées du canal qui sont un peu les petites mains de cette inscription. Et ensuite, bien sûr, on a compris quelle importance ça pouvait avoir, parce que l'inscription d'un site, d'un bien sur la liste du patrimoine mondial, c'est mettre un coup de projecteur et inviter des personnes du monde entier à venir découvrir ce patrimoine.
Un pari peut-être aussi fou que celui du créateur du canal, Paul Riquet, quand ils se sont lancés, c'était pas gagné, c'était original aussi comme idée par rapport au contexte de l'époque, il y a 30 ans.
Effectivement, on était entre 1990 et 1996 dans une période où on se demandait ce qu'on allait faire de ces petits canaux où il n'y avait plus d'activité de transport de marchandises, où elle avait disparu, où il y avait une activité de plaisance, mais... est-ce que ça suffirait à maintenir une activité sur ces canaux? Est-ce que ça justifiait qu'on continue de payer du personnel, des éclusiers et tout le personnel qui va autour pour faire fonctionner ces canaux? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ce moment-là à fermer le canal à navigation, laisser l'eau passer et l'utiliser seulement pour l'irrigation? C'est vraiment quelque chose qui était dans les débats à ce moment-là. Et six mois avant l'inscription UNESCO, la proclamation du 7 décembre 1996, il y a eu les assises de Revel en juin 1996 où toute personne qui avait envie de débattre sur le sujet du canal a été invitée. Et les conclusions de ces débats, c'était de dire non, on ne peut pas abandonner le canal, il faut en faire quelque chose, il faut muscler son activité de tourisme fluvial. Parce qu'il irrigue des territoires, enfin il irrigue dans les deux sens, il irrigue au niveau économique, il irrigue aussi en termes d'alimentation en eau d'irrigation. Donc cette infrastructure, il a fallu la maintenir et l'inscription UNESCO est venue conforter cette idée qu'il fallait absolument continuer l'aventure de Pierre Paul Riquet.
Est-ce que cette inscription a marqué du coup un tournant dans l'histoire du canal ?
Un tournant... oui, ça a infléchi les décisions, ça a permis, dans les années qui ont suivi, la fréquentation touristique sur le canal a très fortement augmenté. Donc derrière ça, bien sûr, tout un monde économique qui s'est retrouvé dans ces valeurs. Et il y a eu une participation des collectivités qui se sont mobilisées aussi pour aider le gestionnaire Voies Navigables de France à mener les projets de développement qu'il était nécessaire de développer.
Merci Samuel Vanier pour cette réponse. Une dernière question pour vous, Gérard Crevon, avant qu'on referme cette partie sur l'histoire. Après avoir consacré autant de temps sur l'histoire de ce canal, l'histoire de Riquet, qu'est-ce qui vous fascine encore sur ce personnage ?
Ben, la personnalité de Riquet lui-même. Hein, c'est d'ailleurs contenu dans le titre de mon bouquin, l'audace.
Et la ténacité.
Et la ténacité. La ténacité, vous avez compris tout à l'heure pourquoi. Il est allé jusqu'au bout malgré les difficultés de se procurer tous les fonds nécessaires. Lors d'un événement récent, là, nous avons eu... ça fait rien.
Donc, l'audace et la ténacité.
L'audace et la ténacité.
C'est ce que vous gardez de cette figure de Pierre-Paul Riquet. Ouais. Merci beaucoup, Gérard Crevon, pour être venu à notre micro. On passe à la troisième partie.
Le 18-19 en Occitanie, émission spéciale.
Troisième partie qui nous permet d'ouvrir un volet beaucoup plus actuel de l'histoire du canal du Midi. Elle se passe à Toulouse avec le projet Grand Parc Canal. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Marine Lefebvre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, que je ne me trompe pas, vice-président de Toulouse Métropole en charge des grands parcs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Peut-être une question déjà assez générale. Quelle est la place du canal du Midi dans le cœur des Toulousains ?
Alors, le canal du Midi est une fierté pour Toulouse. Claude Nougaro l'a chanté, les eaux vertes du canal du Midi. Mais ce n'est pas que ça. Le canal du Midi fait partie du paysage. Et dans les années 70, il a été transformé par l'État en autoroute urbaine, en détruisant des ponts du XVIIIe siècle, en créant des trémies où les voitures passent. Et aujourd'hui, des nouveaux usages, avec notamment la pratique des modes doux et du vélo, réinterrogent toute la structure du canal dans Toulouse et les conflits d'usage entre les voitures, les vélos, et qui utilisent aussi le canal comme autoroute, et les piétons pour se déplacer, et aussi tout simplement pour la flânerie, se promener.
Mmh. Est-ce que du coup le projet Grand Parc Canal, il est né de ce besoin de réfléchir à de nouveaux usages, de réfléchir à de nouvelles mobilités, ou est-ce qu'il y a aussi tout un volet patrimonial qui était important de pouvoir soutenir ?
Alors en fait c'est un tout. Le Grand Parc Canal, alors d'abord, le Grand Parc Canal comprend trois canaux. Le canal du Midi, le canal de Brienne et le canal latéral à la Garonne. Donc c'est un tout. Nous sommes portés par quatre ambitions. On porte l'ambition urbaine et paysagère. L'objectif c'est de reconquérir et apaiser les canaux. Tout ce que je vous disais tout à l'heure avec la voiture, les conflits d'usage. Nous souhaitons également raconter l'histoire des canaux et valoriser le patrimoine historique. Nous souhaitons animer ces canaux et les faire vivre. Et nous souhaitons préserver et renforcer leur richesse écologique.
Voilà. C'est un projet qui est assez ambitieux. Oui. Comment on arrive à faire travailler, en fait, à faire cohabiter ces différents usages sont parfois, on va dire, antinomiques, parce que l'écologie et en même temps le développement, parfois c'est un petit peu compliqué de faire tout ça en même temps.
Eh bien, nous travaillons pas tout seuls. Nous avons d'abord un service complètement dédié à ce projet de grand parc, qui fait partie d'un projet plus global sur 5 grands parcs dans Toulouse et sa métropole. Et nous travaillons également avec une maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage, Jacqueline Osti, qui est paysagère, la société architecturale Arc et Site. Et évidemment, nous travaillons avec l'État, avec VNF, avec les ABF, les architectes des bâtiments de France, avec la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Voilà. Et on porte ces projets, en fait, à plusieurs.
Je vais vous poser une question sur le défi écologique. La biodiversité a aussi toute sa part hein, dans ce projet. Et bien sûr, les enjeux de dérèglement climatique, on l'a vu hein, récemment, la canicule s'est invitée dans différentes régions et dont la nôtre. Comment le canal peut contribuer à rafraîchir la ville face à ces épisodes ? Est-ce que le dérèglement climatique, c'est quelque chose que vous envisagez aussi avec ce projet Grand Parc ?
Ah mais bien sûr, mais en fait, le canal rafraîchit déjà la ville parce qu'il est là. Il a sa trame verte et bleue, ses arbres. Donc voilà, c'est un îlot de fraîcheur, contrairement à ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbaine. Et l'objectif pour nous et pour nos partenaires, enfin les gens avec qui nous travaillons, c'est de préserver ce patrimoine, mais c'est aussi de le développer. Quand on traverse Toulouse, il y a des lieux comme ici où il y a beaucoup d'arbres le long du canal. Et puis quand on passe certaines portions, il n'y a plus un seul arbre, notamment au niveau des Trémies. Je pense notamment pas loin de la place du Puy, il n'y a plus un seul arbre. Et donc l'objectif, ça va être aussi d'essayer de renaturer ces espaces-là, peut-être en supprimant des trémies, en les comblant. Mais ça, c'est un travail de très très longue haleine et nous y attelons dès maintenant.
Et alors, quelle place occupe la biodiversité dans ce projet avec le canal ?
La biodiversité a toute sa place. Elle est même centrale. Le canal, c'est une biodiversité. Je crois qu'on a pu recenser 300 espèces de plantes. Il y a la faune, il y a la flore. Donc la biodiversité, elle est au cœur de nos préoccupations. Et ça, je sais qu'on travaille beaucoup avec VNF. Sur ce sujet, la question est aussi se pose. On n'en a pas encore parlé, mais du chancre coloré. Donc ça, c'est quelque chose de très préoccupant, et tout le monde travaille de concert pour.
Alors ça, c'est la bactérie qui attaque les platanes, hein, en fait.
Oui, c'est ça.
Du canal.
Alors je suis pas spécialiste du chancre coloré, mais je sais que quand un platane est atteint, on abat aussi ceux qui sont à côté, alors que les platanes participaient à la couverture. Végétale de la trame bleue. Donc voilà, on travaille pour replanter d'autres essences.
Et alors là, comment vous travaillez avec les habitants ? Ils ont été associés à cette réflexion. Il y a peut-être des travaux qui sont réalisés aussi avec les scolaires qui ont visité leur canal, qu'on va expliquer aux plus jeunes et à leur famille aussi.
Alors, il y a eu de multiples concertations. Alors, ce n'est pas moi qui les ai menées, puisque à l'époque, je n'avais pas cette délégation. C'est mon collègue François Chollet et les services. Entre 2021 et 2023, il y a eu des concertations sur le plan guide, sur la charte des espaces publics, sur la charte d'architecture, sur le plan d'occupation du plan d'eau, on parle d'activité, et sur les projets de l'écluse et du parvis Saint-Pierre, ainsi que sur certaines opérations tactiques, c'est-à-dire d'occupation des espaces pendant un temps donné. Donc ça, il y a eu des balades diagnostiques en marchant avec plus de 200 participants, des réunions de quartier, des ateliers de co-construction du mobilier tactique. Et en fait, au total, c'est plus de 2500 personnes qui ont participé à ces ateliers.
Et quelles sont les attentes qui sont revenues le plus souvent ?
Moins de voitures, plus de nature et aussi des activités, de nouvelles activités autour du canal plus inclusives.
Alors, on pourrait peut-être parler aussi du fait que le canal est un lieu de vie sur lequel se côtoient les Toulousains, bien sûr, mais aussi les touristes, les plaisanciers. Comment on arrive à cohabiter, à créer une vie autour de ce canal en préservant à la fois les autochtones, donc les Toulousains, mais aussi en faisant venir les plaisanciers, en faisant que l'activité économique ne soit pas un détriment, on va dire, pour les habitants.
Alors comment aujourd'hui ça se faisait, c'était ça cohabitait sans qu'il y ait de réflexion. Voilà, aujourd'hui on mène des réflexions et on compte beaucoup, notamment sur l'apaisement autour du canal, en limitant tout simplement la place de la voiture, pour que chacun ait sa place, les plaisanciers leur place, notamment on voit Port-Saint-Sauveur, qu'il y ait des lieux dédiés au vélo, des pistes cyclables dédiées au vélo, ce qu'on appelle les autoroutes à vélo aujourd'hui, qui ne cohabitent pas avec la partie où les piétons peuvent marcher, flâner, voilà, que chacun ait ses espaces bien définis. Mais ça, c'est quelque chose qu'on est en train de construire, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on ne se posait pas trop la question, en fait.
Ce projet, il est à horizon de combien d'années, en fait? Combien d'années pour le construire et le mettre en application?
C'est un projet qui va sur du moyen-long terme, je dirais plus de 20 ans. L'objectif, c'est qu'en 2050, Toulouse soit elle-même classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses canaux. Voilà.
Alors à Toulouse, on peut se déplacer à pied, on peut prendre le métro, on peut prendre le téléphérique. Est-ce qu'un jour, on pourra prendre aussi le bateau? Est-ce que ça pourrait être aussi une voie finalement utilisée pour les transports en commun?
Alors, oui, certainement, sauf que il faut avoir le temps. Parce que le temps du batelier n'est pas celui du vélo, du cycliste ou même celui du piéton. Donc, c'est une autre manière de se déplacer.
Je vous vois, Nicolas, en train de pratiquer.
Moi, ce que j'aimerais bien, quand même, c'est qu'un jour, on puisse s'y baigner. Mais bon, ça, c'est tout un sujet, parce qu'il y a le conflit avec les bateliers. Donc, c'est un vrai sujet, parce que l'eau, finalement, du canal du Midi, elle est très propre.
Une dernière question pour vous, Marine Lefebvre. Depuis le début de cette émission, nous avons parlé de ceux qui ont construit le canal, de ceux qui l'entretiennent aujourd'hui. Avec votre projet Grand Parc Canal, est-ce que vous êtes en train d'écrire, on va dire, un nouveau chapitre du canal du Midi dans Toulouse?
En fait, je pense qu'on prend, on prend le bateau en marche et on continue...
Celui de Nicolas Hermé.
Exactement. Et on continue l'histoire du canal.
Merci beaucoup pour être venu nous présenter cette politique autour du canal du Midi. Marine Lefebvre, je reprécise que vous êtes vice-présidente de Toulouse Métropole en charge des grands parcs. Virgule Louis.
Le 18-19 en Occitanie, édition spéciale.
Et nous accueillons notre toute dernière invitée, Cécile Hérodeau. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes la directrice programmatrice du festival Convivencia qui a commencé le 27 juin, qui se déroule jusqu'au 20 juillet. Un festival que l'on retrouve tout au long de ce canal du Midi et qui fête cette année ses 30 ans. La péniche est devenue elle-même un personnage central, on va dire, de ce festival, la tourmente. Quelle place occupe-t-elle dans l'aventure?
Alors effectivement, ce bateau a une place centrale dans ce festival, puisqu'on le transforme chaque année en scène flottante. Et ce bateau fait le lien entre les territoires. On s'amuse à dire que ce festival, c'est le plus lent du monde, parce qu'il navigue en moyenne au rythme de 5 km/h pendant 3 semaines. Et donc c'est ce même bateau qui va faire le lien entre les territoires et qui va proposer, en tout cas cette année, 14 escales le long du canal du Midi.
En tout cas, merci d'être venu, d'avoir fait une petite halte par les cales de Radoub, alors que je sais que votre festival vient de commencer. Quel était le pari du départ de ce festival?
Alors le pari, c'était de faire voyager les musiques au fil de l'eau, le long du canal. Et... Alors au départ, des concerts étaient organisés à bord de la péniche Chèvrefeuille. Et puis, au moment où le canal a été classé, est venue cette idée folle de transformer cette même péniche en scène flottante et d'aller à la rencontre des habitants et des habitantes le long du canal du Midi. Et c'est vrai que pendant des siècles, le canal a été... un lieu de vie, lieu de rencontre, lieu de travail, lieu de dialogue aussi entre les cultures. Et à ce moment-là, le transport des marchandises a disparu et toute cette vie s'est effacée peu à peu. Et c'était vraiment cette idée de redonner une fonction sociale et culturelle, de redonner vie d'une autre façon au canal par la musique, en allant vers et en proposant par la musique... le dialogue entre les cultures.
Alors c'est une proposition culturelle originale. Qu'est-ce que le canal offre à un festival qu'aucune autre salle de spectacle finalement ne pourrait offrir?
Bah, plein de choses. Déjà, le cadre, c'est incroyable. Sur ces 14 escales, on voit des paysages différents. Des fois, c'est plutôt urbain, des fois bucolique. Même les habitants, on change de territoire. Et le cadre est magnifique avec l'eau. C'est très beau. Et à chaque fois, on aménage les berges dans une ambiance conviviale, pour que ce soit propice à la rencontre et que tout le monde s'y sente bien.
Et pour les artistes aussi, c'est une relation différente aussi avec le public, avec l'espace scénique. Bon, ça tangue pas trop, j'imagine, sur le canal.
Ça
c'est
va.
Une mer plate.
Et des années, on allait jusqu'à Arles et là, c'est effectivement, ça tanguait un peu plus. Pour beaucoup, c'est une expérience d'être sur l'eau. On a souvent le retour que c'est apaisant. Il y a aussi un accueil assez particulier et je le qualifierais de chaleureux du fait aussi qu'on les accueille, l'espace loge, accueil artiste et aussi pour l'équipe, se trouve dans la cale, donc à l'intérieur du bateau qu'on aménage avec différents espaces et donc les artistes jouent donc au-dessus. Et du coup ça se distingue de plein d'autres festivals et le fait aussi que ce soit... la même équipe professionnelle qui navigue pendant ces 3 semaines, c'est une équipe assez soudée, à taille humaine, avec aussi un renfort bien sûr de bénévoles, mais aussi le fait que ce projet-là, à chaque fois on le construit, on l'imagine avec les acteurs locaux, c'est vraiment tout ce travail de fond, qui est un travail d'une année qui donne du sens à ce festival, ça donne effectivement un aspect humain très particulier.
Un lieu inspirant, un festival inspirant aussi. Les artistes qui sont venus depuis 30 ans, ils ont peut-être été justement touchés par cette aventure scénique. Ça leur a peut-être inspiré de la musique, des mots.
Oui, on a, parce qu'on fait aussi à l'année de l'accompagnement à la création artistique. On accueille des artistes en résidence et c'est vrai que l'eau, le canal, c'est inspirant. Là, on accompagne deux créations cette année, et justement, ils travaillent autour de, il y en a une, c'est plus autour des rituels de l'eau. L'autre, c'est plus autour des voyages, de l'exil, qui fait aussi le lien avec l'eau, le canal. Donc oui, c'est une source d'inspiration.
Vous avez fait référence à cette proposition culturelle que vous proposez avec les acteurs locaux. Je sais que ça dépasse largement le cadre des concerts qui se passent sur péniches. Au contraire, vous allez en dehors, à la rencontre des publics parfois empêchés. Expliquez-nous un petit peu cette démarche qui fait vraiment sens dans votre ADN finalement.
Donc c'est vrai que ce festival, c'est plus que de la musique, c'est tout un travail à l'année avec la jeunesse, les personnes âgées, on travaille avec le tourisme, les acteurs économiques. Et on va proposer, par exemple, pour chaque escale, il y a l'émission donc Radio Convivencia qui est animée sur les berges. Donc c'est un peu une installation assez proche de celle-ci, où on propose aussi aux festivaliers et festivalières d'écouter l'émission donc animée par les jeunes en direct, qui permet aussi de découvrir les coulisses du festival. On propose aussi des balades découvertes du canal avec des performances artistiques. On a aussi des expositions d'art contemporain. Il se passe plein de choses en journée, des conférences avec les artistes. Donc il y a plein de façons de découvrir autrement le canal et les artistes qui sont programmés le soir.
On va se centrer sur cette édition qui est quand même un peu particulière, ce 30e anniversaire, un cap assez symbolique. Est-ce qu'elle a une couleur du coup particulière pour ses 30 ans, une volonté de votre part ?
Alors d'être encore plus, je dirais, dans la mise en avant de l'eau, du canal, du vivant, de la rencontre. Et pour cela, on organise par exemple demain une grande parade fluviale et artistique en plein cœur de Toulouse, où on donne rendez-vous au public demain à 18h30 à la gare du Matabiau. Et on a associé un groupe qui s'appelle la Vespa Cougourdon Orchestra, un groupe assez atypique qui joue des instruments fabriqués en Cougourdon, qui fait partie de la famille des courges, et c'est de la transe carnavalesque. Et donc ils vont animer ce parcours de Matabiau jusqu'au port de l'embouchure, où on va rester 3 jours, de fête. Et c'est l'idée. Cette année, on a vraiment encore plus envie de mettre en avant ce bateau transformé en scène de concert et le canal comme lien entre toutes ces escales.
Quels sont les artistes que l'on va pouvoir croiser au cours de ce festival qui, je le précise, se poursuit jusqu'au 20 juillet?
Alors, plein d'artistes. Moi, l'idée à chaque fois, c'est de mettre en avant notre société qui est multiple et on a de la chance d'avoir une belle diversité. Donc, on va pouvoir découvrir. Donc, je parlais de musique occitane avec, par exemple, la Vespa Cougourdon Orchestra qui va jouer demain. Il va y avoir une rencontre jeudi, une rencontre inédite de Titi Robin, qui est un grand guitariste spécialiste, on va dire, plus des musiques gitanes flamenco, avec des musiciens du Rajasthan. Une création aussi autour des musiques judéo-arabes avec Charou Live. Un grand bal avec Moussé Hakim, ça ce sera ce vendredi, et plein d'invités, jusqu'à 17 artistes sur scène, avec beaucoup de la scène toulousaine comme Rita Macedo, Ange B, Guillaume Lopez, Serge Lopez, et aussi la famille Lacaille, René et Oriane Lacaille. On va avoir aussi de la musique italienne, un grand bal avec Officine Meridionali, où on va organiser avant le concert une initiation aux danses du sud de l'Italie. Il y aura aussi un bal Zigan avec Tarafikan, là aussi on pourra s'initier aux danses. Il y aura de la musique aussi afro-caribéenne. Enfin voilà, à chaque fois, chaque escale raconte une histoire avec la musique et fait lien aussi avec le territoire où on imagine tout au long de l'année l'événement.
En Toulouse, c'est un berceau artistique aussi, il y a un vivier sur cette terre ici. Venir au festival, être programmé, c'est aussi peut-être une étape importante dans la vie d'un artiste toulousain.
Je pense que c'est marquant parce que c'est le festival est quand même assez repéré, assez atypique et c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, c'est une expérience pour le festivalier ou la festivalière qui vient, qui participe à l'événement. C'est vraiment, je dis, dans l'idée de participer, d'être acteur, et l'artiste aussi d'être sur l'eau. C'est quand même ça se distingue de plein d'autres lieux.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 30e édition?
Je dirais d'avoir toujours autant de succès, d'avoir la météo aussi avec nous et qu'on puisse continuer à organiser cet événement encore au moins 30 années.
Merci beaucoup Cécile Hérodeau pour être venue nous présenter Convivencia, je le rappelle, jusqu'au 20 juillet 2026. Il va traverser nos départements jusqu'à arriver dans l'Hérault. La date, enfin le site de fin pour Convivencia.
Alors www.convivencia.eu.
Et on va se quitter en musique, mais avant cela, je tiens à remercier bien sûr tous nos invités, vous, Cécile Hérodeau, Liborio Barra Franca, Samuel Vanier, Gérard Crevon, Marine Lefebvre, merci à vous tous d'être venus nous présenter votre Canal du Midi. Remerciements également pour la préfecture de région qui nous a aidés à monter ce projet d'émission spéciale Voie Navigable de France, avec un remerciement particulier pour Camille Dirda qui nous a accompagnés tout au long de la journée malgré un coup de chaud. Merci aussi au service de la mairie de Toulouse, les vieilles maisons françaises Haute-Garonne qui sont partenaires de cette série d'émissions. Un grand merci. Réalisation technique depuis Toulouse, Gaëtan Goza. Réalisation technique depuis Montpellier, Louis Echeverria. Organisation logistique, Charlotte Rebou. Merci à vous trois. On se quitte en musique avec un artiste qui est programmé sur Convivencia. C'est Davy Kilembe. On écoute Le Silence. Bonne soirée à vous tous.
Cultivateur de la peur, cesseront de se répandre, nous pourrons enfin entendre. Le silence, le silence, le silence, le silence, le silence, le silence. Le silence. Dans la voix des haut-parleurs et dans le bruit des moqueurs, rien qui nous mène la danse, rien qui nous donne confiance. Au lieu des téléviseurs, des réseaux de la terreur, le son d'une page blanche pour nos oreilles, c'est dimanche. Le silence. Le silence. Le silence, le silence, le silence, le silence, le silence, le silence.
oiseaux des solutions. On laissera la nature sonoriser l'aventure. On écoutera les voix des gens qui nous voient sans intention de vengeance, puis nous laisserons sa chance.